villégiature et une cage de bêtes féroces. Émile Zola. La boutique du bonnetier Gobichon est peinte en jaune clair. C'est une sorte de couloir obscur garni à droite et à gauche de casiers exhalant une vague senteur de moisi. Au fond, dans une ombre et un silence solennel, se dresse le comptoir. La lumière du jour et le bruit de la vie se refusent à se hasarder dans ce tombeau. La villa du bonnetier Gobichon, située à Arcueil, est une maison à un étage, toute plate, bâtie en plâtre. Devant le corps de logis s'allonge un étroit jardin enclos d'une muraille basse. Au milieu se trouve un bassin qui n'a jamais eu d'eau. Ça et là se dressent quelques arbres étiques qui n'ont jamais eu de feuilles. La maison est d'une blancheur crue. Le jardin est d'un gris sale. La Bièvre coule à 50 pas, charriant des puanteurs. Des terres crayeuses s'étendent à l'horizon, des débris, des champs bouleversés, des carrières béantes et abandonnées, tout un paysage de misère et désolation. Depuis 3 années, Gobichon a l'ineffable bonheur d'échanger chaque dimanche l'ombre de sa boutique pour le soleil ardent de sa villa, l'air du ruisseau de sa rue pour l'air nauséabond de la Bièvre. Pendant 30 ans, il a caressé le rêve insensé de vivre au champ, de posséder des terres où il ferait bâtir le château de ses songes. Rien ne lui a coûté pour contenter son caprice de grand seigneur. Il s'est imposé les plus dures privations. On l'a vu pendant 30 ans se refuser une prise de tabac et une tasse de café, empilant gros sous sur gros sous. Aujourd'hui, il a assouvi sa passion. Il vit un jour sur 7 dans l'intimité de la poussière et des cailloux. Il mourra content. Chaque samedi, le départ est solennel. Lorsque le temps est beau, la route se fait à pied. On jouit mieux ainsi des beautés de la nature. La boutique est laissée à la garde d'un vieux commis qui a charge de dire à chaque client qui se présente « Monsieur et Madame sont à leur villa d'Arcueil ». Monsieur et Madame, équipés en guerre, chargés de paniers, vont chercher à la pension voisine le jeune Gobichon, gamin d'une douzaine d'années, qui voit avec terreur ses parents prendre le chemin de la Bièvre. Et durant le trajet, le père, grave et heureux, cherche à inspirer à son fils l'amour des champs en dissertant sur les choux et sur les navets. On arrive, on se couche. Le lendemain, dès l'aurore, Gobichon passe la blouse du paysan. Il est fermement décidé à cultiver ses terres. Il bêche, il pioche, il plante, il sème toute la journée. Rien ne pousse. Le sol fait de sable et de gravats se refuse à toute végétation. Le rude travailleur n'en essuie pas moins avec une vive satisfaction la sueur qui inonde son visage. En regardant les trous qu'il creuse, il s'arrête tout orgueilleux et il appelle sa femme. « Madame Gobichon, venez donc voir » crie-t-il. « Hein ? Quels trous ? Sont-ils assez profonds, ceux-là ?» La bonne dame s'extasie sur la profondeur des trous. L'année dernière, par un étrange et inexplicable phénomène, une salade, une romaine haute comme la main, rongée et d'un jaune sale, a eu le singulier caprice de pousser dans un coin du jardin. Gobichon a invité 30 personnes à dîner pour cette salade. Il passe ainsi la journée entière au soleil, aveuglé par la lumière crue, étouffé par la poussière. À son côté se tient son épouse, poussant le dévouement jusqu'à la suffocation. Le jeune Gobichon cherche avec désespoir les minces filets d'ombre que font les murailles. Le soir, toute la famille s'assit autour du bassin vide et jouit en paix des charmes de la nature. Les usines du voisinage jettent une fumée noire, les locomotives passent en sifflant, traînant toute une foule endimanchée bruyante. Les horizons s'étendent, dévastés, rendus plus tristes encore par ces éclats de rire qui rentrent à Paris pour une grande semaine. Et, mêlés aux puanteurs de la Bièvre, les odeurs de friture et de poussière passent dans l'air lourd. Gobichon, attendri, regarde religieusement la lune se lever entre deux cheminées.
Puisqu'il faut vivre avec son temps, vivons autrement que nos parents. Qui veut jeter entre quatre murs, il nous faut un plafond d'azur. La vie qui nous enchante, chante, chante, chante. C'est la vie enivrante, la vie indépendante. D'être à peur au cœur bien trempé. Un, deux, trois. Campeur, sachons camper. Ah, c'est beau la nature, les fleurs, les petits oiseaux. La brise qui murmure et les reflets sur l'eau. Pour posséder tout à la fois, campons au coin d'un bois. Le campeur, comme un escargot, porte sa maison sur le dos. C'est la campeuse qui choisit le site pour passer la nuit.
Cependant qu'elle chante, 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 c'est le campeur qui plante les piquets de la tente.
Avec un gros maillet de bois, pom, pom. Et qui s'écrase un doigt. Ah, ah, c'est beau la nature, les fleurs, les petits oiseaux. La brise qui murmure et les reflets sur l'eau. Pour posséder tout à la fois, campons au coin d'un bois.
Comme on ne peut pas manger chaud, on sort du sac une tête de veau. Le campeur affûte son couteau, soudain la campeuse fait oh.
Car une vache pas méchante chante, chante, chante une chanson navrante
et d'une langue innocente lèche le crâne rose et nu.
Mu, mu, mu.
Son veau qu'elle a reconnu.
Ah, c'est beau la nature, les fleurs, les petits oiseaux. La brise qui murmure et les reflets sur l'eau. Pour posséder tout à la fois, campons au coin d'un bois. Les nuages s'étant épaissis, l'orage éclate, le voici. L'eau du ciel qui tombe à torrent éteint le feu définitivement.
La foudre gronde, il vente, 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 de manière effarante,
cramponné à la tente. Et la campeuse et le campeur, oh, 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 murmure à l'intérieur. Ah, que c'est beau la nature, et les fleurs, les petits oiseaux. La brise qui murmure, et les reflets sur l'eau. Pour posséder tout à la fois, campons au coin d'un bois. La pluie cesse, mais il attend plus que tout espoir est superflu. Le campeur, comme un escargot, reprend sa maison sur le dos.
Et la campeuse chante, 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 chante. Bien qu'elle soit pas contente, une marchande traînante.
Elle chante avec le campeur,
tchou,
pour se donner du cœur. Ah, c'est beau la nature, les fleurs, les petits oiseaux. La brise qui murmure et les reflets sur l'eau. Faudra pour que ça marche droit, faire mieux la prochaine fois.
Cage de bêtes féroces. Chapitre 1. Un matin, un lion et une hyène du jardin des plantes réussirent à ouvrir la porte de leur cage, fermée avec négligence. La matinée était blanche et un clair soleil luisait gaiement au bord du ciel pâle. Il y avait sous les grands marronniers des fraîcheurs pénétrantes. Les fraîcheurs tièdes du printemps naissant. Les deux honnêtes animaux qui venaient de déjeuner copieusement se promenèrent avec lenteur dans le jardin, s'arrêtant de temps à autre pour se lécher et jouir en braves gens des douceurs de la matinée. Ils se rencontrèrent au fond d'une allée et, après les politesses d'usage, ils se mirent à marcher de compagnie, causant en toute bonne amitié. Le jardin ne tarda pas à les ennuyer et à leur paraître bien petit. Alors, ils se demandèrent à quels amusements ils pourraient consacrer leur journée.
« Ma foi, dit le lion, j'ai bien envie de contenter un caprice qui me tient depuis longtemps. Voici des années que les hommes viennent, comme des imbéciles, me regarder dans ma cage. » Et je me suis toujours promis de saisir la première occasion qui se présenterait pour aller les regarder dans la leur, quitte à paraître aussi bête qu'eux.
Je vous propose un bout de promenade dans la cage des hommes. » À ce moment, Paris, qui s'éveillait, se mit à rugir d'une telle force que la hyène s'arrêta court, écoutant avec inquiétude. La clameur de la ville montait, sourde et menaçante, et cette clameur, faite du bruit des voitures, des cris de la rue, de nos sanglots et de nos rires, ressemblait à des hurlements de fureur et à des râles d'agonie.
« Bon Dieu !» murmura la hyène. « Ils s'égorgent pour sûr dans leur cage. Entendez-vous comme ils sont en colère et comme ils pleurent ?»«
Il est de fait, » répondit le lion. Qu'ils font un tapage effroyable. Quelque dompteur les tourmente peut-être. »
Le bruit croissait et la hyène avait décidément peur.
« Croyez-vous, demanda-t-elle, qu'il soit prudent de se hasarder là-bas ?»«
Ah ! » dit le lion, « ils ne vous mangeront pas, que diable ! Venez donc, ils doivent se mordre d'une belle façon et cela nous fera rire. »
Chapitre 2. Dans les rues, ils marchèrent modestement le long des maisons. Comme ils arrivaient à un carrefour, ils furent entraînés par une foule énorme. Ils obéirent à cette poussée qui leur promettait un spectacle intéressant. Ils se trouvèrent bientôt sur une vaste place où s'écrasait tout un peuple. Au milieu, il y avait une sorte de charpente en bois rouge et tous les yeux étaient fixés sur cette charpente d'un air d'avidité et de jouissance.
« Voyez-vous, dit à voix basse le lion à la hyène, cette charpente est sans doute une table sur laquelle on va servir un bon repas à tous ces gens qui se passent déjà la langue sur les lèvres. Seulement, la table me paraît bien petite. »
Comme il disait ces mots, la foule poussa un grognement de satisfaction. Et le lion déclara que ce devait être les vivres qui arrivaient, d'autant plus qu'une voiture passa au grand galop devant lui. On tira un homme de la voiture, on le monta sur la charpente et on lui coupa la tête avec dextérité. Puis, l'on mit le cadavre dans une autre voiture et l'on se hâta de l'enlever à l'appétit féroce de la foule qui hurlait, sans doute de faim.
« Tiens, on ne le mange pas !»
s'écria le lion, désappointé. La hyène sentit un petit frisson agiter ses poils.
« Au milieu de quelle bête fauve m'avez-vous conduite ? » dit-elle. « Elle tue sans faim !» « Pour l'amour de Dieu, tâchons de sortir vite de cette foule !»
Chapitre 3. Quand ils eurent quitté la place, ils prirent les boulevards extérieurs et marchèrent ensuite tout doucement le long des quais. En arrivant à la cité, ils aperçurent, derrière Notre-Dame, une maison basse et longue dans laquelle les passants entraient comme on entre dans une baraque de la foire, pour y voir quelques phénomènes et en sortir émerveillé. On ne payait d'ailleurs ni en entrant ni en sortant. Le lion et la hyène suivirent la foule et ils virent sur de larges dalles des cadavres étendus, la chair trouée de blessures. Les spectateurs, muets et curieux, regardaient tranquillement les cadavres.
« Eh, que disais-je ? » murmura la hyène.
Il ne tue pas pour manger. Voyez comme il laisse se gâter les vivres. » Lorsqu'ils se trouvèrent de nouveau dans la rue, ils passèrent devant un étal de boucher. La viande, pendue au croc d'acier, était toute rouge. Il y avait contre les murs des entassements de chair, et le sang, par minces ruisseaux, coulait sur les plaques de marbre. La boutique entière flambait sinistrement.
« Regardez donc, » dit le lion, « vous dites qu'il ne mange pas. Voilà de quoi nourrir notre colonie du jardin des plantes pendant 8 jours. Est-ce que c'est de la viande d'homme, cela ?»
La hyène, je l'ai dit, avait copieusement déjeuné.
« Pouah ! »
fit-elle en détournant la tête.
« C'est dégoûtant ! La vue de toute cette viande me fait mal au cœur !»
Chapitre 4.
Remarquez-vous, reprit la hyène un peu plus loin, remarquez-vous ces portes épaisses et ces énormes serrures. Les hommes mettent du fer et du bois entre eux pour éviter le désagrément de s'entre-dévorer. Et il y a à chaque coin de rue des gens avec des épées qui maintiennent la politesse publique. Quels animaux farouches !
À ce moment, un fiacre qui passait écrasa un enfant et le sang jaillit jusqu'à sur la face du lion.
« Mais c'est écœurant !»
s'écria-t-il en s'essuyant avec sa patte.
« On ne peut pas faire 2 pas tranquilles, il pleut du sang dans cette cage !»«
Parbleu !» ajouta la hyène. « Ils ont inventé ces machines roulantes pour en obtenir le plus possible, et ce sont là les pressoirs de leur ignoble vendange. »
Depuis un instant, je remarque à chaque pas des cavernes empestées au fond desquelles les hommes boivent de grands verres pleins d'une liqueur rougeâtre qui ne peut être autre chose que du sang. Et ils boivent beaucoup de cette liqueur pour se donner la folie du meurtre, car dans plusieurs cavernes, j'ai vu les buveurs s'assommer à coups de poing.
Je comprends maintenant, reprit le lion, la nécessité du grand ruisseau qui traverse la cage. Il en lave des impuretés et emporte tout le sang répandu. Ce sont les hommes qui ont dû l'amener ainsi chez eux par crainte de la peste. Ils y jettent les gens qu'ils assassinent.
Nous ne passerons plus sur les ponts,
interrompit la hyène en frémissant.
« N'êtes-vous pas fatigué ? Il serait peut-être prudent de rentrer. »
Chapitre 5. Je ne puis suivre pas à pas les 2 honnêtes animaux. Le lion voulait tout visiter et la hyène, dont l'effroi croissait à chaque pas, était bien forcée de le suivre car jamais elle n'aurait osé s'en retourner toute seule. Lorsqu'ils passèrent devant la bourse, elle obtint, par ses prières instantes, qu'on n'entrerait pas. Il sortait de cet antre de telles plaintes, de telles vociférations, qu'elle se tenait à la porte frissonnante, le poil hérissé.
« Venez, venez vite !» disait-elle en tâchant d'entraîner le lion. « C'est sûrement là le théâtre du massacre général, entendez-vous ? Les gémissements des victimes et les cris de joie furieuse des bourreaux. Voilà un abattoir qui doit fournir toutes les boucheries du quartier. Par grâce, éloignons-nous. »
Le lion, que la peur gagnait et qui commençait à porter la queue entre ses jambes, s'éloigna volontiers. S'il ne fuyait pas, c'est qu'il voulait garder intacte sa réputation de courage. Mais au fond de lui, il s'accusait de témérité. Il se disait que les rugissements de Paris, le matin, auraient dû l'empêcher de pénétrer au milieu d'une si farouche ménagerie. Les dents de la hyène claquaient d'effroi. Et tous deux, ils s'avançaient avec précaution, cherchant leur chemin pour rentrer chez eux, croyant à chaque instant sentir les crocs des passants s'enfoncer dans leur cou. Chapitre 6. Et voilà que, brusquement, il s'élève une clameur sourde des coins de la cage. Les boutiques se ferment, le tocsin se lamente d'une voix haletante et inquiète. Des groupes d'hommes armés envahissent les rues, arrachent les pavés, dressent à la hâte des barricades. Les rugissements de la ville ont cessé. Il règne un silence lourd et sinistre. Les bêtes humaines se taisent, elles rampent le long des maisons, prêtes à bondir. Et bientôt, elles bondissent. La fusillade éclate, accompagnée de la voix grave du canon. Le sang coule, les morts s'écrasent la face dans les ruisseaux, les blessés hurlent. Il s'est formé deux camps dans la cage des hommes et ces animaux s'égaient un peu à s'égorger en famille. Quand le lion eut compris ce dont il s'agissait, « Mon Dieu !» s'écria-t-il, « sauvez-nous de la bagarre! Je suis bien puni d'avoir cédé à la bête envie que j'avais de rendre visite à ces terribles carnassiers. Que nos mœurs sont douces à côté des leurs. Jamais nous ne mangeons entre nous. » Et s'adressant à la hyène, « Allons, vite, des talons !» continua-t-il. « Ne faisons plus les braves. Pour moi, je l'avoue, j'ai les os gelés d'épouvante. Il nous faut quitter lestement ce pays barbare. » Alors, ils s'enfuirent, honteusement et peureusement. Leur course devint de plus en plus furieuse et emportée, car l'effroi les battait aux flancs et les souvenirs terrifiants de la journée étaient comme autant d'aiguillons qui précipitaient leurs bonds. Ils arrivèrent ainsi au jardin des plantes, hors d'haleine, regardant avec terreur derrière eux. Alors, ils respirèrent à l'aise. Ils coururent se blottir dans une cage vide dont ils fermèrent vigoureusement la porte. Là, ils se félicitèrent avec effusion de leur retour.
« Ah, bien !» dit le lion. « On ne me reprendra pas à sortir de ma cage pour aller me promener dans celle des hommes. Il n'y a de paix et de bonheur possible qu'au fond de cette cellule douce et civilisée. »
Un certain jour, les animaux, las d'exister dans la même peau, se sont dit pour le carnaval, faisons un bal original.
Ils ont nommé un comité qui décida sans hésiter qu'à l'occasion de ce gala, chacun deviendrait ce qu'il n'était pas.
Le comité fut acclamé et chacun dit enthousiasmé,
je vais donc chausser pour un instant la peau que j'en viens depuis longtemps.
Si le zèbre était effrayé d'échanger son complet rayé, la panthère tremblait plutôt qu'on enleva les taches de sa peau.
Le lion déclarait noblement, c'est un fameux divertissement pour n'importe qui, mais pas pour moi, qui suis et dois rester le roi.
Alors le tigre dit au lion,
je partage votre opinion, car nos pelages, c'est mon avis, deviendraient des descentes de lit.
La girafe ajoutait, fort sage, y a la pointure et y a l'usage, car si le phoque prenait ma peau, j'interdirais qu'il aille dans l'eau.
Je compte en plus le prix de la peau, et je refuse, dit le pourceau, d'échanger les soies de mon veston pour de la laine ou du coton.
Si la tortue de bonne grâce sans risque offrait sa carapace, chacun voulait bien changer de peau
en gardant la sienne sur son dos.
Mais par faiblesse ou vanité, beaucoup s'étant laissé tenter, il vint au bal, ce fut navrant, des animaux incohérents.
Comme aucun d'eux ne possédait vraiment la peau qui lui convenait, d'aucuns avaient les pieds en bois pour les avoir trop à l'étroit.
Ton tandis que, par compensation, d'autres, à leur grande confusion, dans des pots hors de dimension,
ressemblent aux accordéons. Au petit jour, le bal c'est ça. Alors le vrai drame commença. Car vous pensez que les moins gros retrouvèrent leur peau pleine d'accrocs.
Devant le vestiaire, on se battit. Naturellement, les plus petits, ceux qui se plaignaient d'avoir des trous, des gros encaissèrent tous les coups.
Le résultat, bien entendu, la fontaine l'avait prévu.
Il progrès n'a rien changé.
L'agneau par le loup fut mangé.
Oh là là!
Monsieur Pourrir.
Ah, bon.